C'est l'heure des enjeux internationaux, 6h45 sur France Culture. Bonjour,
Thierry Garçon. Bonjour Émilie, bonjour à tous et bonne rentrée bien entendu.
Alors, à vous aussi.
On va parler de la Syrie, quel titre choisi, quelles impasses, quels espoirs avec notre invité Bichara Kader. Merci d'être en direct avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'Université catholique de Louvain. Alors, dès la fin des années 2000, la guerre civile en Syrie avait été crainte ou prévue. On avait annoncé cette guerre comme régionalisée et internationalisée, ce qui n'a pas manqué d'être. Et puis, depuis 2011, c'est la curée, chacun instrumentalisant les alliances contre nature ou à front renversé. Alors, se mêlent, c'est très frappant, et interagissent aussi les facteurs ethniques, religieux, politiques, diplomatiques, militaires, économiques. Chacun a son agenda caché et un ennemi peut en cacher un autre. Alors comment décrire le moment où l'on se trouve aujourd'hui, Bichara Kader?
5 ans après le début du soulèvement syrien, voilà, il y a des choses qui changent et il y a des choses qui ne changent pas. Ce qui ne change pas, c'est que le pays s'enfonce dans l'abîme. Le pays est exsangue, réduit en amas de ruines. Les morts s'ajoutent aux morts. Un cinquième des Syriens a déjà quitté le pays. 10 millions de déplacés. Bref, les Syriens, depuis 5 ans, sont dans une véritable souricière. Aussi, on ne meurt pas sous les décombres. On est tenaillé par la peur, la faim et la soif. Ça ne change pas, malheureusement. Et par contre, comme je l'avais toujours dit, la guerre de Syrie ne reste jamais confinée sur le territoire syrien. Elle déborde sur les voisins. Le Liban, bien sûr, est exposé en premier lieu. Le Liban qui reçoit pratiquement 1,5 million de réfugiés syriens, la Jordanie. Et les nouveaux développements ou la nouvelle tournure avec de nouveaux rebondissements, ça vient du côté de la Turquie.
Est-ce que
la
vous
Turquie
pensez...
s'est lancé dans la bataille, pratiquement il est maintenant dans de plein pied dans le bourbier syrien.
On va en reparler d'ailleurs demain avec notre invité Didier Billon de la Turquie demain matin. Est-ce que vous pensez que quand même l'un des tournants au moins politiques et diplomatiques a été celui de décembre dernier avec la fameuse résolution numéro 2254 sur la Syrie qui avait été adoptée par l'ONU à l'unanimité, qui avait proclamé, ça c'est important, l'unicité du pays, qui avait prévu un cessez-le-feu, un gouvernement de transition, des élections dans les 18 mois, une nouvelle constitution, et qui n'évoquait pas d'ailleurs le sort politique de Bachar el-Assad, le président syrien. Est-ce que ça a été quand même un moment sur le plan au moins diplomatique?
Oui, certainement sur le plan diplomatique, c'est un développement important et je crois que les Russes ont joué un rôle significatif car aujourd'hui les Russes sont en position de force et la remis Assad en selle, mais elle ne tient pas à la personne de Assad, mais elle tient néanmoins à l'unité de la Syrie face à des velléités séparatistes, notamment en ce qui concerne les Kurdes ou la région kurde. Le Rogava est précisément un des buts de la Turquie, c'est d'empêcher que la région turque, la jonction de la région turque à l'est et à l'ouest de l'Euphrate. Et les Russes ont fait là des concessions importantes aux États-Unis pour faire adopter cette résolution. Mais de manière générale, on se rend compte que c'est les Russes qui fixent l'agenda diplomatique et on l'a vu dans cette résolution sur la Syrie. Mais je crains malheureusement que ça ne tombe dans l'oubli comme beaucoup d'autres résolutions sur la Syrie par le passé. Je crois qu'aujourd'hui les Russes sont conscients que plus le conflit dure, plus ils risquent eux aussi d'être enlisés dans ce conflit syrien. On l'a bien vu, ils sont intervenus militairement et puis ils se sont retirés, annonçant un retrait plutôt fictif, mais ils ont continué à bombarder à partir des bases russes, puis ils ont utilisé même les bases iraniennes pour bombarder la Syrie, mais les Russes se rendent compte que ce n'est pas une solution qui est durable, tenable pour l'économie russe, pour le prestige de la Russie, ayant gagné sur le terrain diplomatique, comme on le voit par la résolution des Nations Unies, les Russes aujourd'hui voudraient une solution politique qui puisse empêcher empêcher la décomposition ou la fragmentation de la Syrie. Et en ceci, les Turcs et les Russes sont sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, Erdogan est allé en Russie dernièrement, et c'est avec lui qu'il s'est concerté probablement, qu'il a annoncé l'entrée des chars russes en Syrie, et pour éviter qu'ils ne soient éventuellement bombardés. Donc vous voyez, tout ce qui se passe révèle quand même le rapport de force à l'échelle régionale et à l'échelle internationale. Cette résolution est plutôt une bonne nouvelle pour la Syrie, à condition néanmoins que ce ne reste pas une résolution sans effectivité.
Voilà, il faut le rappeler d'ailleurs, Bichar Akader, que le début des interventions des raids aériens, dans un premier temps des raids aériens russes en Syrie, donc date du 30 septembre, ça a été un moment là aussi dans la guerre civile. Est-ce que le fait que le président américain soit en fin de mandat ne puisse pas par définition être réélu, est-ce que ça ajoute encore à l'incertitude de la position américaine, qui n'est pas une position finalement très 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 allante, on va dire simplement.
Mais écoutez, d'après tous ceux qui connaissent un peu le dossier, il est patent que les États-Unis ont perdu sur le dossier syrien, ont perdu en matière de statut, en matière d'image, en matière de crédibilité. D'où d'ailleurs les tensions entre l'Amérique et l'Arabie Saoudite, les tensions entre la Turquie et l'Amérique. La Syrie ne paraît pas aujourd'hui, surtout dans une période électorale, que être une priorité stratégique pour les États-Unis. Ils craignent bien sûr d'être empêtrés dans un conflit multidimensionnel où il y a des retournements de situation, des transformations des alliances quasi assez rapides. Et je crois que pour eux, le moindre faux pas pourrait s'avérer très coûteux. Donc les Américains sont restés plutôt en retrait. Ne parlons pas bien sûr de l'Europe, où alors elle brille par son absence sur le dossier syrien, en dépit des gesticulations de l'un ou de l'autre.
Oui, et puis la France était enfermée dans ce ni Bachar al-Assad ni l'État islamique, et refusait même toute négociation avant le départ de Bachar al-Assad. C'était évidemment une ligne très difficile à tenir. Alors en ce qui concerne Bichar Akader, les risques de fragmentation, qui a intérêt à une Syrie démantelée, à part évidemment les Kurdes, mais qui a vraiment intérêt?
Écoutez, ni les Iraniens, ni les Turcs, ni les Russes, ni les Américains, ni a fortiori le régime de Bachar al-Assad n'ont intérêt à une fragmentation et à une décomposition de la Syrie sur base ethnique. Car n'oubliez pas, les Iraniens ont aussi une minorité kurde. La Turquie elle-même est un pays assez composite, avec des sunnites pour la majorité.
Oui, on dit environ 15-18 millions de Kurdes sur 80 millions d'habitants pour la Turquie, en
Exactement,
gros.
Exactement, mais il y a également 20% au moins de la population turque qui sont des alévis. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des sunnites. Donc un des objectifs de l'entrée de la Turquie en scène, c'est d'éviter la dislocation de la Syrie sur base ethnique. C'est un cauchemar pour la Turquie, mais c'est un cauchemar également pour l'Iran, et de manière générale, c'est un cauchemar pour tous les autres pays arabes.
Tous les voisins, voilà.
Il y a peu de pays arabes qui sont parfaitement homogènes sur le plan ethnique ou sur le plan religieux.
Merci en tout cas, Bichar Akader. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université catholique de Louvain. On viendra justement sur la Turquie demain. Nos camarades de Culture Monde, tout à l'heure à 11h du matin, parleront également de la Syrie, le titre qu'ils ont choisi, L'impossible entente. Et puis, bien sûr, pour télécharger l'émission ou pour la réécouter, donc franceculture.fr. Et puis, pour consulter aussi les commentaires que nous donnons chaque jour par écrit en introduction de ces enjeux internationaux. Franceculture.fr, Émilie, tout est dit.